2015. Et j'ai pu arpenter les trottoirs, j'ai pu visiter les différents quartiers de Annecy avec un cher ami qui m'a conduit. Et je suis allé à Seynod, c'est ça? Bebelouet, c'est mieux. C'est... Voilà, enfin, en tout cas, j'ai fait les différents quartiers. C'était le paradis. J'ai fait du porte-à-porte aussi. Et c'était intéressant de voir aussi la réaction aussi des gens. En tout cas, une belle ville, une magnifique ville. C'est assez impressionnant. Il y a une qualité de vie qu'on n'a pas, en tout cas, à Paris. Je suis saïd d'origine marocaine. Comme vous le voyez, ce n'est pas de ma faute. Mais je suis fier d'être arabe et chrétien. Mon épouse est d'origine algérienne. Une femme extraordinaire, magnifique. Elle va rentrer ce soir. Elle est partie tout le week-end en Algérie pour la journée de la femme. Donc, elle intervient dans des grandes communautés. Entre autres, aujourd'hui, elle intervient dans une église de 1500 personnes. Et j'ai deux enfants, je suis propriétaire non seulement d'une 504 familiale diesel, mais aussi de deux enfants qui sont magnifiques. J'ai un garçon, il a 15 ans, il m'énerve, il chose au moins du 52. C'est assez impressionnant, hein. Les pieds qu'il a, faut que je commande des baskets sur Internet. Et puis une petite fille qui est mignonne, ma fille, elle a 13 ans, elle a des longs cheveux frisés, des yeux noirs, ce qu'il a tous, je me tréha comme il n'a jamais pris de sa vie. Une belle fille, moi aussi j'ai acheté une Kalachnikov. J'ai une fille qui est magnifique. Voilà, puis nous sommes en tout cas très heureux de partager ce message de la bonne nouvelle partout en France. Très honnêtement, je pourrais faire du tourisme spirituel. Je suis régulièrement invité à l'étranger et je crois qu'il y en a beaucoup qui se gargarisent souvent dans certaines présentations. Voilà, on a fait 20, 40, 50 pays dans les CV. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas de faire du tourisme spirituel. Je pourrais être dans de nombreux pays, souvent invité, mais j'aime la France. Et la France est une terre de mission. Il y a 780 quartiers déclarés ZUS, zone urbaine sensible. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Il y a 65 millions de Français. Nous sommes 800 000 évangéliques. Voilà, les chiffres sont là. Mais ce matin, je voudrais aussi en même temps être en identification avec mes frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais en même temps, en France, il y a une autre sorte de persécution insidieuse, subtile, qui s'installe de plus en plus, et on la sent pas, on la voit pas, elle s'installe, elle prend forme, elle gagne du terrain, elle nous tue, elle nous amène dans une mort lente, spirituelle, à un tel point que finalement on ne réagit plus, on n'est plus conscient. Il y en a beaucoup qui cherchent des titres, mais ce que nous voulons, c'est l'onction. Le succès des hommes n'est pas le succès de Dieu. Et j'ai observé depuis maintenant quelques mois, et particulièrement le mois de juillet-août où j'ai perdu beaucoup de kilos, j'étais obligé de traduire des vidéos de l'arabe au français. Et j'ai suivi un petit peu... Puisque je suis engagé avec plusieurs organisations sur la défense des chrétiens en terre à majorité musulmane, j'ai observé la réaction de ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas fait l'expérience du Christ, comme les yézidis ou d'autres, les chabaks, toutes ces minorités. Mais j'ai observé la réaction, le comportement des chrétiens au moment où ils allaient être exécutés par leurs bourreaux. J'ai pu voir la force spirituelle. J'ai pu voir dans leur visage, dans leur comportement, quelque chose qui me bouleverse. C'est cette certitude, cette force qui se dégage d'eux. On met sur un piédestal parfois certaines personnes et on a des titres et c'est extraordinaire de voir comment on élève l'homme. Mais il y a des gens qui ne payent pas de mine. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance comme nous d'aller à l'église tous les dimanches. Il y a des personnes qui n'ont même pas cette chance, je dirais, d'avoir tous ces enseignements dont nous pouvons bénéficier sur Internet. Il y a des gens qui connaissent même pas le grec, Alpha, Beta, Zubida, Coca-Cola, Malika par cœur. Ils n'ont pas fait l'herméneutique, l'homilétique, la conjonctivite, les ménonites et tout ce qui va avec. Et pourtant, j'ai observé leur comportement, j'ai observé l'attitude de ces frères et sœurs. Au moment où on allait exécuter ces trois personnes que Daesh, que ISIS avait attrapées, au moment de les exécuter, ils avaient les mains attachées. Et puis on leur a simplement sommé, soit vous reniez votre foi, soit vous reniez ce Jésus, et puis on vous laisse libre, mais il faut vous convertir à l'islam. Mais les trois en même temps, au moment de les exécuter, ils avaient les yeux bandés. Les trois en même temps ne se sont pas regardés, ne se sont pas envoyés un SMS ou un code, mais les trois en même temps, à l'unanimité, ils n'ont pas le top chrétien, ils ne viennent pas à l'église tous les dimanches. On se demande mais quel enseignement ils ont reçu, mais les trois en même temps, face à leur bourreau, ils ont répondu, nous sommes prêts à mourir pour Jésus. Très honnêtement, si c'était moi, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce que j'aurais répondu, parce que déjà, moi, je ne me connais pas. Peut-être que j'aurais mis ma bouche Nike et j'aurais couru, manav, je ne sais pas. Mais ce matin, c'est par habitude, par réflexe, peut-être pour vous, c'est facile de dire Amen. Mais est-ce que je mesure ce Amen, ce qui signifie réellement ce matin ? Est-ce que je pèse véritablement le Amen que je viens de prononcer ? C'est un Amen pour faire plaisir ? C'est un Amen par habitude ? Ou c'est vraiment un Amen de foi, avec une position de foi ? J'ai besoin d'être en identification. Nous avons besoin d'être en identification, le Seigneur nous le dit. De pleurer avec ceux qui pleurent. Au-delà du temps et de l'espace, je peux être en identification avec mes frères et sœurs, ceux qui sont aujourd'hui cassés, brisés, détruits, où l'horreur, la sauvagerie, la barbarie, ça va à un tel point que ce sont aujourd'hui des enfants qui sont exécutés pour avoir regardé un match de foot. Et d'une manière insidieuse, manière subtile en France, j'observe un autre phénomène, une autre persécution qui s'installe et qui nous installe dans un confort. Et merci Seigneur pour le confort que tu me donnes, mais le confort que tu me donnes, je veux m'en servir. Mais petit à petit, on voit de plus en plus dans certaines villes que l'étau se resserre. Et que parfois, je prends des jeunes et puis on fait une belle réunion de jeunesse comme hier soir. Nous allons au McDonald's et je demande à l'un ou à l'autre de rendre grâce. Et il devient chocolat bleu pâle. Il y a comme une sorte d'appréhension, parfois une certaine gêne de la part des chrétiens, de dire même qu'ils sont chrétiens. Une persécution subtile. Et c'est pas l'islam qui me fait peur. C'est les chrétiens qui me font peur. C'est cette frilosité, cette fragilité, cette froideur. Ce qui me fait le plus peur, ce ne sont pas les musulmans. C'est de nous-mêmes dont on devrait avoir peur. Matthieu chapitre 5. Jésus, voyant la foule, Jésus monte sur la montagne et après qu'il se fut assis, on est dans un contexte sémite oriental. Jésus, au moment où il s'assoit, il y a une signification, il y a un symbole, c'est que les disciples qui sont en face, ils vont se taire, les insupportables, ils vont les éteindre et ils vont écouter Jésus parce que Jésus, là, il a un enseignement très important à leur donner. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Juste une toute petite parenthèse ici ce matin, on pourrait supposer que les hommes et les femmes, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui vivent cette vie qui exprime de la douceur, ceux qui attendent la soif avec soif la justice de Dieu, ceux qui sont miséricordieux envers les autres, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui cherchent la paix entre Dieu et les hommes, on pourrait supposer ceci ce matin, quand on lit ce message des béatitudes, on pourrait supposer que de telles personnes, je vous dis, le succès des hommes n'est pas le succès de Dieu. Le Seigneur, il nous dit, il est la lumière qui brûle et qui brille. Nous, on veut briller, après on veut brûler. On pourrait supposer que de telles personnes vont être applaudies. Elles vont être décorées par M. Hollande. Elles vont être choyées, louées, embrassées, célébrées, mais ce n'est pas le cas. Regardez bien ce que dit Jésus. À la fin d'une telle vie, elle n'est pas faite de louanges à leurs égards. Ils ne vont pas faire la parade des Champs-Élysées. Ce n'est pas des gerbes qui vont être jetées en leur honneur. Mais c'est la persécution pour une vie droite, pour une vie juste, sans compromis devant le Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour eux est le royaume des cieux. Heureux serez-vous quand les gens vous insultent. Moi, on m'insulte. Vous persécute. Moi, on va dire de moi faussement des choses à mon encontre. Moi, on va dire du mal de moi. Et le Seigneur, il me dit, réjouis-toi, Zama. Moi, je vais me réjouir. Réjouissez-vous et soyez heureux, car votre récompense, Jésus me parle d'une récompense. Ce n'est pas 72 vierges que je vais arriver dans le ciel. Récompense, elle est grande dans les cieux. Parce que c'est de la même façon qu'on a déjà persécuté d'autres personnes avant toi. Le mot heureux est très intéressant, il est l'équivalent d'être béni. Mais là, c'est un mot qui reste tellement faible, je dirais, dans la consonance française, mais dans le terme arabe, araméen, sémite, oriental, pour nous communiquer finalement ce que Jésus veut dire. La racine du mot heureux suggère ou suggérerait que le bonheur dépend ou dépendrait finalement de la bonne situation dans laquelle je suis, dans la bonne ville dans laquelle je suis, ou dans les circonstances dans lesquelles je suis. Mais ce n'est pas ce que ce mot veut dire. La joie, la bénédiction de Dieu dont nous parle Jésus est une joie dont la nature résiste à tous les temps, à toutes les circonstances, à toutes les épreuves de la vie. On vit quand même confortablement dans une société aujourd'hui qui court après le bonheur et même des fois c'est quand on sort de l'église, on a l'impression qu'on a fait du yoga spirituel. On vient plus pour rendre un culte, on vient pour prendre une picouse spirituelle, on est bien dans notre jacuzzi. Nous vivons dans une société, c'est vrai, qui court après le bonheur, mais qui ne court pas après le bonheur? On voit que la recherche du bonheur, elle est inscrite dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, elle fait d'être heureux, c'est devenu pratiquement un droit de l'homme aujourd'hui. Ce bonheur est caractérisé par quoi en France? À quoi aspirons-nous, courons-nous ? Dans des sociétés occidentales, généralement, on définit ça en termes de prospérité, de bonne santé, de travail stable et rémunérateur, de belles maisons, de relations sociales, je dirais, qui sont épanouies. Mais le bonheur dont Jésus nous parle là est enraciné en Dieu, en Christ, dans le Christ lui-même. Non pas dans les circonstances, parce que malheureusement les circonstances vont se dégrader de plus en plus dans le temps. Le bonheur, on voit bien que c'est quand même un état subjectif, mais là on voit que Jésus nous parle d'un... Il porte plutôt sur le bonheur un jugement qui est objectif, Jésus. Le bonheur, il varie, il change, dès que je vois la tête de Claire Chazal. Le bonheur dépend de la tronche et du regard de mon patron quand j'arrive lundi matin au travail. Et le bonheur, parfois, il varie juste en rapport avec ce qui me reste sur mon compte. La bénédiction dont Jésus nous parle ici, frères et sœurs, elle ne se laisse pas impressionner. Elle ne se laisse pas intimider. Elle ne se laisse pas, je dirais, arrêter, freiner par les épreuves de la vie. Ainsi, Jésus ose m'affirmer ici qu'une personne peut être bénie et cependant demeurer même dans des circonstances qui sont défavorables. Comment ça est-ce que c'est possible ? Je peux être malade et béni. Il y a un évangile tel de la prospérité qui te dit si t'es, ah, t'es louche, toi, si t'es malade, t'as un problème. On va te scanner spirituellement. Mais quand cela arrive, ils sont moins spirituels, ceux-là. J'en ai déboîté plus d'un comme ça. Honnêtement, je pensais que j'allais jamais être malade, je suis tombé malade. J'étais en pleine prédication à Bordeaux, plié en deux, comme ça j'avais mal au ventre. Il me ramène à l'hôpital de Bordeaux, le médecin il me fait une échographie, il croyait que j'étais enceinte, je ne sais pas quoi. En plus, la vérité, le médecin c'était un Libanais, il me fait peur, il me dit c'est plein, je dis ouais, c'est un garçon, c'est une fille, Allah, vas-y. Et il me dit non monsieur, c'est la vésicule biliaire, il y a plein de queues, je fais t'as cru que mon père il est maçon quoi. Et j'ai été opéré, mais ils m'ont renvoyé à Paris parce que ça partait dans le colédoc. Mais la misère, j'étais à l'hôpital, j'étais malade, et je regarde le 20h. Claire Chazal, la saleté, elle me dit, Saïd, l'hôpital dans lequel tu es, il a la maladie nosocomiale. Mais j'étais en panique. Et le matin, ils m'ont envoyé en dessous, là, au sous-sol, dans la boucherie Halal. C'était des Antillais. J'ai l'impression que la France, elle a embauché tous les Antilles, ma parole. Ils étaient là, ça qu'a mâché, ça qu'a ouvé. J'ai dit, ah, mettez les gants là, wesh là! Tu crois que quoi là? Il m'a gazé, il m'a opéré comme un mouton. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'avais mal? J'étais malade. Ça faisait mal. Ils m'ont donné de la morphine. C'était bon ça. Je dis, allez-y encore, allez-y. Mais malade, malade, malade. Mais une grâce de Dieu particulière sur moi. Même dans la maladie. Tu peux être même dans une période difficile dans ton couple, dans ta famille, avec ton époux, avec ton épouse. Tu peux traverser une tempête et tu peux être béni. Seigneur, il est avec toi. Il reste avec toi. Il demeure avec toi. Même si on est dans des circonstances qui parfois, c'est la tempête, ça souffle, il y a des vents contraires, mais tu restes béni. Jésus veut nous faire comprendre que le vrai bonheur se trouve d'abord quand la Wi-Fi spirituelle se déclenche. Quand la live box divine, elle est reliée à lui. Quand tu es en connexion avec le ciel. Non mais allô quoi, vous me recevez ou pas là? Comment est-ce que ça, c'est possible? La condition de celui qui est béni en tant que disciple de Jésus signifie bien que Nous luttons. Nous luttons. Nous ne sommes pas définis par nos luttes. Parce que ce matin, il y en a qui voient, il y a toutes sortes de contorsions mentales. Il y en a qui voient, ils sont omnibulés par leurs problèmes. C'est l'arabe qui cache la forêt, tellement leur problème il est immense, ils arrivent à l'église, ils n'arrivent même pas à décrocher Alléluia. Mais ce matin, il faut que tu comprennes que Dieu, il est plus grand que tes problèmes, plus grand que tes luttes. Jésus, il est plus grand que tous les problèmes, plus grand que toutes les luttes. Si seulement tu pouvais voir comme Jésus voit. On n'est pas défini en fonction de nos luttes, de nos combats, de nos problèmes. Mais Dieu, il est beaucoup plus grand. Et la vie chrétienne, moi quand je me suis converti, mon pasteur, il ne m'a pas dit que c'était Disneyland. Hein. Ce n'est pas le parc d'Astérix, la vie chrétienne. Mais parfois, on prêche tellement Dieu, il a amour, il est la grâce. Et il y a une autre facette de l'évangile. Car Dieu, il est plus grand que nos luttes et notre satisfaction, elle se trouve en lui. Non pas une vie, sans soucis, sans tracas, sans difficultés. Ça, c'est pas vrai. Vous êtes trompé d'église. Mais nous sommes rendus heureux, façonnés en Dieu, non pas par les circonstances favorables, parce que les circonstances changent, même les gens changent. Mais Yassou el-Messih, el-Ems, el-Yum, el-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. La vie en abondance, pour moi, ne signifie pas absence de problèmes, d'adversité, de difficultés, de combats, mais même dans les tempêtes, même dans les difficultés, même dans les moments les plus difficiles, je m'enracine dans Jésus. Les grandes crises ne font pas de moi un héros ou un lâche, mais souvent dans la tempête, ça révèle vraiment ce que nous sommes. En France, j'aime cette expression. On voit le maçon au pied du mur. Hein? Il y avait un pasteur, il prêchait sur le combat spirituel. Un message. Introduction, 3 points. La conclusion qu'il a fait. Puis il s'est trouvé par hasard en plein cœur des quartiers nord de Marseille. Les jeunes rebeux sont venus vers lui, il s'est sauvé. Il dit, il est beau le combat spirituel théorique. Les persécutions que nous endurons vont tester par-dessus tout notre loyauté, et notre loyauté sera toujours éprouvée de différentes manières. Et c'est de la volonté de Dieu, que tu le veuilles ou pas, de nous construire, de nous bâtir, afin de t'amener toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'à un jour, tu pourras franchir la ligne d'arrivée. Matthieu chapitre 5 verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le mot persécution, pour certains, signifie être poursuivi, être chassé de ses terres, harcelé, brimé, humilié, vexé, pressurisé. La persécution revêt différentes formes en Occident et au Moyen-Orient. Toutes sortes de calomnies, d'insultes, de propos haineux, ostracisme, bannissement, forme d'exclusion sociale. Mais en même temps, une autre forme de persécution qui nous rend timorés, qui finalement nous empêche de nous exprimer, de parler, d'afficher finalement nos convictions chrétiennes, de prendre des positions fermes aujourd'hui face à certaines lois qui sont de plus en plus lucifériennes. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a beaucoup plus dangereux. Il y a des puissances spirituelles qu'on ne voit pas, mais le puzzle, il manque quelques pièces à ce puzzle. On me dit, Saïd, est-ce que l'islam, c'est l'antichrist? Je fais, il y a pire qui arrive. Et il faut ouvrir les yeux. Il y en a qui tirent les ficelles avec une telle force, une telle subtilité. Et c'est notre devoir de prévenir l'Église. On meurt à petit feu spirituellement. Dans les actes des apôtres, lorsque les disciples étaient menacés, ils priaient pour ne pas être protégés. Mais quand on voit ce que disent les apôtres, ils disaient, mais Seigneur, donne-moi encore beaucoup plus de force pour être habile, pour pouvoir annoncer ton message. Tant qu'il fait jour, tant qu'on peut, tant qu'il ne fait pas nuit. Mais les ténèbres s'installent en Occident, en France. La persécution découlera de votre droiture, frères et sœurs, ce matin. Il y a parfois des chrétiens qui sont tellement odieux et un pasteur aux États-Unis qui prend un Coran et qui le brûle à la vue de tout le monde. C'est de la persécution ou de la provocation? Jésus ici affirme qu'une vie juste conduit à la persécution. Mais analysons en profondeur. Le mot justice signifie être en règle avec Dieu d'abord, dans le sens d'être justifié. Il transpose là l'idée d'être debout. Quelqu'un qui est debout, qui peut regarder les gens en face, il n'a pas à rougir. Ça signifie droiture devant Dieu, et quand tu es droit devant Dieu, tu peux regarder n'importe qui tu peux croiser, tu peux la regarder en face. Et la bénédiction qui est en réserve pour ceux qui sont persécutés à cause de l'amour, à cause de la droiture, ce qui est intéressant, c'est que remarquez, Jésus finit le passage des Béatitudes avec cette promesse, cette récompense du royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de réel. Si l'enfer existe, la présence de Dieu existe, le royaume de Dieu existe. J'ai pu observer des personnes qui allaient partir. Et j'ai vu leur dernière seconde. J'ai vu leur dernière minute. J'ai vu comme si réellement il y avait des gens physiquement qui venaient les chercher. Et ils sont morts dans des conditions. Je dis, Seigneur, ta grâce, je ne voudrais jamais mourir comme ça. Mais j'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu des femmes de Dieu. Quand ils sont partis, leur visage brille. J'ai l'impression qu'ils avaient de l'huile. Il y avait une paix. Ils dégageaient une paix. Tellement ils dégagent une paix, vous avez envie de partir avec eux. C'est réel. C'est réel. Il y en a qui ont vu l'enfer réellement. Et le paradis, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte. C'est quelque chose de vrai. Il est intéressant de remarquer que sur les 8 bénédictions, on voit que les versets 11 et 12 ont un commentaire qui nous explique les versets 11 et 12 et remarquez que la progression, cela signifie que quand je suis juste, quand tu seras droit, quand tu prendras des positions, quand tu voudras, je dirais, exprimer ton opinion sur, je dirais, une base biblique, tu vas déranger que tu le veuilles ou pas. Et c'est justement cette joie qui m'encourage à continuer, je dirais, cette droiture, cette justice, bien qu'imparfaite. Mais c'est notre droiture qui, parfois, au travail, qui fait que nous subissions certaines pressions, harcèlements, formes de persécution. Quand tu es secrétaire, que tu arrives au travail le lundi, et ton patron, ton responsable, il te dit, si quelqu'un téléphone, tu lui dis que je suis pas là, et toi tu lui dis, rah, tiens, tu es là, rah. C'est pas facile, c'est pas évident de prendre certaines positions. Moi, des fois, je répare ma voiture, je vais chez un cousin, et il me dit, je te fais la facture en dessous, je fais, tu vas la mettre là, la facture. Dieu bénira votre loyauté envers lui, en nous donnant la joie. Et puis, on dormira mieux, je dirais, sur notre oreiller. Parce qu'il y a un policier ici parmi nous, il faut faire attention. Je ne vais pas tout dire ce matin. Quand nous marchons avec Dieu, frères et sœurs, nous nous trouvons en porte-à-faux avec le monde et ses nouvelles valeurs. Dieu veut que nous soyons heureux, mais le suivre, va automatiquement te mettre en opposition avec les valeurs nouvelles de ce monde dans lequel nous sommes entrés dans une nouvelle ère. J'étais au Sénat au mois de septembre avec plusieurs amis, etc. Il y avait Raffarin, il y avait Carucci, il y avait plusieurs personnalités, etc. Et parmi tous les sénateurs, il y avait quand même quelques dames qui étaient là. Et nous avons exprimé, je dirais, ce souhait, je dirais, dans la défense. Nous avons aussi exprimé pourquoi, je dirais, nous avions ces valeurs chrétiennes. Et tout d'un coup, au Sénat, à l'intérieur du Sénat, certaines dames se sont tournées vers moi et m'ont dit « Mais vous nous redonnez du courage !» Je dis, ah bon? Oui, parce qu'avant, on n'osait même pas dire que nous étions chrétiens ici. Jésus, Marie, José, Pérec. Pauvre France, laïcarde. Marcher avec Dieu signifie être à contre-courant. C'est le prix payé aujourd'hui par beaucoup de personnes en terre à majorité musulmane, parce que nous avons choisi, nous, d'être à contre-courant, mais aussi à contre-corps. Maintenant, j'aime cette réalité parce qu'elle me montre que la joie, la bénédiction de Dieu, elle est beaucoup plus sainte, elle est beaucoup plus longue, je dirais, que celle que peuvent me faire les hommes. La vérité, il y a parfois des chrétiens qui m'énervent. On leur marche sur l'orteil de leur doigt de pied, ils vont voir le pasteur et m'ont persécuté. Non mais allô quoi. Il y a un chrétien, un gitan, il m'appelle à 3h du matin. Moi, c'est les chrétiens qui me persécutent, c'est pas les musulmans. Non, mais la vérité, quand on vous harcèle, Jésus, quand on vous harcèle au téléphone, c'est lourd, hein. S'il y a une emprise spirituellement, parfois, il faut couper. Lui, il me téléphone, Zama, à 3h du matin, le gitan, il me dit, Saïd, est-ce que je dois prendre un cachet d'aspirine ou deux? Je lui dis, tu vas prendre une de ces patates, tu vas avaler toute la boîte. Moi, faut pas se moquer de moi. Hein. J'ai pas quitté l'islam pour retrouver une religion comme ça. Gardez-la sinon. Hein. Je vous choque, tant mieux. Si vous êtes pas content, j'ai des cousins dans la cité. À la fin de l'église, on peut arranger ça. La persécution ne m'arrête pas. Parce que la bénédiction de Dieu m'inspire à vivre cette vie chrétienne. Ainsi, Jésus nous demande de nous réjouir. Honnêtement, c'est quand même difficile de se réjouir, hein, d'être heureux face à la persécution pour deux raisons. Vous connaissez Spurgeon, de son prénom Saïd Spurgeon, un homme de Dieu extraordinaire. Il a dit, vous êtes la vraie succession prophétique si vous acceptez les reproches. Moi, la vérité, quand je lis ça, ça me fait trembler. Parce qu'un arabe reste un arabe. C'est comme un train, il peut en cacher un autre. Non, mais vous êtes spirituel, mais accepter les reproches, c'est difficile. Surtout quand ça vient de certaines personnes, on ne s'y attend pas. Il y a pas longtemps, j'étais en Suisse. Je suis en train d'écrire un livre, et puis des amis à moi sont venus de Renoir. Et ils m'ont dit, Saïd, on va aller dans un restaurant. Moi, j'aime bien la fondue, la tartiflette, je ne connaissais pas. J'ai découvert, c'est Madame Ray. Avec ça, tu fais des maisons au Maroc, la vérité. Et mes amis, ils m'ont invité à manger dans un restaurant. On arrive dans le restaurant. Je rentre le premier, mes deux copains Renois, ils sont derrière, deux. Un Rebeu et deux Renois. Je rentre dans le restaurant. Il y avait 45 personnes, mais que des costauds, que des blancs. Je rentre dans le restaurant, rah, et puis c'était des tables de 8, et puis je vois bien le gars, en rigolant, en ricanant, il dit à ses copains, cherchez l'erreur dans la salle. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est tombé sur un fou. Moi, je suis crétin, je ne suis pas crétin. Ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Au moment où il a dit ça, je l'ai pointé en face. Je suis une erreur. Ah, messieurs, cherchez l'erreur dans la salle ici. Hein? Moi, je suis une erreur ici. Comme ça, j'ai hurlé dans le restaurant. Ils ont tous posé les couteaux, les fourchettes. Et je suis allé vers lui directement. Je dis, moi, tu ne me connais pas. Moi, je ne suis pas une erreur. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu, moi. n'était pas fier. Ça rigolait plus dans la salle. Mais comme je suis spirituel, après on est allé manger notre fondue, j'ai bien fondu. Non. Mais j'ai dit à la patronne, « Madame, ce groupe qui est de l'autre côté, qui sont-ils ?» Elle me dit, « C'est des gendarmes. » C'est pas un policier, hein, te respecte. Voilà. Non mais frères et sœurs, est-ce que c'est facile d'avoir des reproches? Pas évident. Je suis chrétien, mais je me laisse pas faire. J'ai des voisins, c'est des Antillais, ils m'énervent. Est-ce qu'il y a des Antillais ici? D'accord, c'est pas des Antillais alors, c'est bon. Non mais les sales gosses, toujours, ils sont en train de jouer au ballon devant chez moi. Et je leur dis, t'as cru que c'est la cité, wesh, là? Et ici, c'est pas le Stade de France, hein. Tu le dis une fois, tu le dis deux fois. Mais c'est vrai, bon, t'as ton comportement de chrétien. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, s'il vous plaît? Vas-y, bouge avec ta balle maintenant, hein! Et le sale jeune, je lui dis, va me chercher ton père. Il me ramène sa mère, une femme, à moi, un arabe. Et elle, en plus, dans le quartier, elle me crie dessus. Elle me crie dessus, à moi. Elle ne me connaît pas, moi, de me crier dessus, à moi. Et moi, j'ai hurlé plus qu'elle. Elle me dit, en plus, on vient de se marier. Je lui dis, félicitations. Ce qui est incroyable, c'est que cette femme, elle n'a pas fait l'école biblique de Bordeaux. Elle n'a pas le top chrétien. Et cette femme, elle me dit, monsieur, je vous demande pardon. Je dis, Seigneur, heureusement, je n'ai pas un ictus derrière ma voiture. Et les reproches, ce n'est pas facile. Mais vous rendez compte de ceux à qui on enlève un ongle derrière un ongle, qu'on crucifie. Ces filles qu'on viole, non seulement mentalement, psychologiquement, mais physiquement, où c'est 20, 30, 40 personnes pour 5 dollars. Nous, on est loin. Il y a une récompense pour tous ces frères et sœurs qui nous ont devancés. C'est pas quelque chose de charnel ou d'égoïste. C'est un don, c'est un cadeau. Il y a certaines personnes qui brillent aujourd'hui dans notre monde évangélique. Mais dans le ciel, on va voir quelle place ils vont avoir face et à côté des martyrs. Ou de la mamie, de la grand-mère dans nos églises qui n'a pas fait de bruit, mais qui a toujours eu une vie de prière extraordinaire. Le succès des hommes, faisant attention, ce n'est pas le succès de Dieu. Chaque chrétien, ce matin, a besoin de saisir cette réalité de la persécution afin d'éviter d'être déçu par la persécution, les insultes, le rejet. De Timothée 3:12, en fait, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il est important pour moi souvent de prévenir tous ces musulmans qui viennent vers moi, et souvent ils viennent vers moi, ils me disent, Saïd, il y en a une, elle est venue vers moi dernièrement, elle me dit, Saïd, mais est-ce que tu pourrais me dire, je veux me convertir, mais je voudrais que tu me dises toutes les choses négatives sur l'islam. J'ai regardé ma montre, je dirais, j'aurai jamais assez le temps. Mais si aujourd'hui la conversion, elle est sur les choses négatives de telle ou telle autre religion, à quoi ça sert? Pour moi, ce n'est pas des vraies conversions. Moi, je lui dis, je préfère te parler de qui est Jésus pour moi. Valoriser ce qu'il y a dans la Bible plutôt que de mettre en exergue les défauts. Parce que le christianisme aussi, il a ses défauts dans ce cas-là. Mais Jésus, il est parfait. Si les hommes t'ont trompé, si les hommes t'ont déçu, te plains pas, claque pas la porte de l'église. Jésus te décevra jamais, lui. Mais je le mets quand même au parfum, parce qu'il faut pas mentir. Moi, vous allez te choquer, mais je préfère décourager un musulman que de l'encourager. Parce qu'il y a de fausses repentances qui amènent à de fausses conversions. Et aujourd'hui, on a besoin d'être convaincu de péché, de justice et jugement, et de rentrer dans des vraies conversions, où la personne véritablement va rentrer dans sa destinée, va se multiplier. Donc la personne qui vient voir, je dis, premièrement, la peine de mort, l'apostasie. Deuxième chose, ta famille, ton environnement, tout ça. Fini, c'est terminé pour toi, ils vont te rejeter. Troisième chose, tu pourras plus retourner dans ton pays d'origine. Quatrième chose, l'odeur du couscous, l'odeur des macros, des cornes de gazelle, etc. et tout, c'est fini pour toi, toutes ces odeurs-là. Il faut arrêter de mentir. Quel engagement tu prends? Quand l'engagement tu prends, quand tu es venu dans cette église, est-ce que c'est écrit dans le contrat ou c'est comme les publicités de téléphone, en tout petit, Zama, pour que tu ne vois pas? Moi, ça, je le mets en grand. Souvent, les musulmans me disent ça, ils me provoquent ça, mais moi, ils me provoquent, moi. Ils me disent, ouais, mais il y a beaucoup plus de Français qui deviennent musulmans. Pourquoi? Pour une blonde aux yeux bleus? Pour des papiers? On a toutes sortes, on a quatre types de conversions à l'islam. Je les ai analysés. Et ces Français qui ne se convertissent pas, pour moi, qui adhèrent à l'islam, pour moi, ils ne sont jamais passés par une vraie conversion parce que je vous ai dit et je vous le redis, la conversion, c'est dans un sens unique. On se convertit à Christ qui change complètement. La notion de péché coranique et bibliquement n'a rien à voir. La conception du péché dans le Coran, c'est que tout est rentré dans l'ordre du moment où Adam il a demandé pardon à Dieu. Mais la notion de péché, pour moi aujourd'hui, en tant qu'ex-musulman, c'est bien sûr rater le but, ça on le connaît par cœur, on a tous fait de la théologie. Mais le pire des péchés, c'est que je fais souffrir Dieu. C'est cette souffrance que tu infliges au Père, à ton Père, à ce Dieu qui t'aime. Jésus leur dit, si vous êtes en Christ, la persécution ne doit pas vous étonner. Maintenant, ce que je remarque, c'est que dans nos belles églises, j'ai l'impression, même quand j'interviens sur ce sujet maintenant de la persécution depuis quelques semaines, j'ai l'impression que c'est une sorte d'anomalie. Mais moi je vais vous dire ce matin, s'il y a une anomalie, c'est dans ta vie. La seule anomalie, ce serait celle de manque de persécution dans ta vie. Qu'est-ce qui me prouve, moi? Qu'est-ce qui me prouve? Jésus, excusez-moi, je ne suis pas en train d'interpréter à ma manière. Je ne dis même pas, je dirais qu'il faut aimer l'idée d'être persécuté. Mais Jésus me dit que si tu es chrétien, la persécution elle arrivera. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas été persécuté? Ce qui va me prouver que réellement, tu as signé un vrai contrat. Parce qu'on se cache, on évite. On n'aborde pas, même parfois, je dirais dans certaines situations, on ne veut pas aborder certains sujets juste pour notre confort. Et à côté de ça, les gens ils passent l'autre côté de l'éternité. Je ne ferai pas de compromis avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de vous dire attention, hein. Si vous n'êtes pas persécuté, vous n'êtes pas chrétien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis même pas qu'il faut aider, aimer l'idée d'apprécier la persécution. Il n'y a rien d'intrinsèquement bon là-dedans. Mais moi, c'est vrai, c'est plutôt l'absence de persécution dans notre marche chrétienne. Quel est le signe qui montre que nous aussi, nous marchons à contre-courant? Est-ce que je prends des positions fermes aujourd'hui sur certaines lois qui ont été votées, qui sont en train d'être votées? On me dit qu'Adam et Yves aujourd'hui peuvent se marier, puis Inch'Allah, un jour ils vont garder mes enfants, je te mets une taille, ils ne vont rien garder du tout. Et on a peur, on n'ose pas. Moi j'ai tout un collectif qui s'est mis contre moi parce que soi-disant je suis homophobe. Je dis, moi j'ai pas de problème moi avec toi mon frère. Tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai un périmètre biblique, je ne le dépasse pas. J'aime l'homme, l'être humain. Mais il y a des choses que je ne peux pas, parce que c'est contraire, je dirais, au principe dans lequel j'ai même reçu cette éducation. Si un conjoint se moque, si un professeur vous ridiculise, si aujourd'hui on nous empêche de plus en plus de pouvoir annoncer ce message librement, il faut quand même ce matin que chaque chrétien comprenne que le but de la vie chrétienne, c'est pas simplement de devenir gentil, populaire, quelqu'un qui va offenser jamais personne. C'est un fait qui est constaté parce que dans Luc chapitre 6, verset 26, Seigneur, il nous donne cette parole, écoutez bien. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Il faut analyser ce verset, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui veulent tellement plaire. Et moi, j'aime plaire. J'aime être apprécié par vous, par l'Église, aller dans les conventions, dans les pastorales. Oh, regardez, c'est Saïd Oujibou. On aime tellement plaire, être aimé. C'est un verset quand même, c'est un texte qui me hante, parce que je veux tellement plaire. Saïd Oujibou veut tellement être gentil, il veut tellement être populaire. Et être aimé de tous et surtout ne pas les offenser en leur disant aujourd'hui certaines vérités bibliques. L'antagonisme, frères et sœurs, il est inévitable entre un vrai chrétien et le monde. En fait, un vrai chrétien aujourd'hui doit être, je dirais, un reproche permanent, une conscience incarnée dans ce monde dans lequel nous sommes. Les chrétiens, pour moi, ne sont pas différents du monde, ils sont l'inverse. Peut-être trois observations, une qui nous encourage, deux qui vont amener une réflexion. Mais la persécution, elle est un signe que votre vie, elle est agréable à Dieu. Si la persécution, depuis ta conversion jusqu'aujourd'hui, elle est absente, est-ce que vraiment quand tu as signé ce contrat, quand tu t'es converti, est-ce que tu as vu qu'il y avait ce petit point-là? Quand tu as signé le contrat, est-ce que tu as vu ça? Il y a une autre forme de persécution aujourd'hui vis-à-vis de nos jeunes filles évangéliques, chrétiennes, qui est subtile, qui est diabolique. À quel point les anciens de cette église, à quel point nous devons reprendre avec foi, avec amour, avec autorité, avec force, et chasser ces mauvais esprits, libérer toute cette jeunesse aujourd'hui. Vous allez dire, mais tu vas un peu loin, je peux vous donner les numéros de téléphone, vous vous occuperez d'eux. Et quand Jésus me dit « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous », je dois vraiment revoir ma profession de foi. Que dire aux parents ? Que dire aux parents ? Que dire aux parents ce matin ? Comment est-ce que nous élevons nos enfants? Comment est-ce que Saïd élève ses enfants? Est-ce que mes enfants sont sursécurisés, surprotégés? Ou est-ce que j'amène un défi à mes enfants aujourd'hui dans notre société? De chez moi, de chez nous, de notre environnement, ils vont confortablement dans l'église, dans cet environnement encore protégé, sursécurisé. Et il n'y a eu aucune confrontation avec le monde extérieur, à part à l'école. Mais est-ce qu'on amène vraiment notre jeunesse, je dirais, parce que la jeunesse est en quête d'idéal. Quel idéal proposons-nous aujourd'hui à notre jeunesse chrétienne qui se lasse, qui est fatiguée, qui a envie, qui est en quête de quelque chose, qui veut faire des choses, et on les étouffe, on les empêche. On a tellement peur pour eux, on les surprotège, on les sursécurise, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un milkshake fraise, insipide. Et parfois, quand je prends certains jeunes, je les amène avec moi en banlieue et je fais des confrontations avec les musulmans. Je regarde l'attitude, je regarde les convictions. Mais les musulmans sont beaucoup plus convaincus, beaucoup plus fermes dans leur foi. Comme hier, quand on était avec M. Ray, on a rencontré ce jeune Youssef. Il avait des amis évangéliques, il fallait voir sa conviction, sa certitude qu'il avait. À quelle génération? Je provoque ce matin, mais à quelle génération dans nos églises nous sommes en train de donner naissance? Moi, je vous dis, j'épargne pas mes enfants. Ils ont tellement honte de moi. On les épargne pas, on les protège pas. Ils savent ce que c'est que la persécution. Les insultes, les coups de fil, les railleries, ils ont participé à toutes les émeutes. Mais mes enfants, quand ils arrivent à la cantine, école privée de Sion catholique, mes enfants, ils arrivent devant la dame qui est rebeu en face et lui dit c'est du porc. Ils lui disent on est chrétien. Une fois, je suis à Carrefour. Je suis avec ma femme et puis mes enfants à Carrefour. Rayon bouteille de vin. Sinon, ça sera un christianisme qui sera juste un héritage et ceux qu'on critique, malheureusement, on va devenir comme eux. Je vais terminer pour vous encourager. Hein. Est-ce que vous voulez être encouragé? Amen, moi aussi. Jacques, il a été décapité. Philippe, il a été crucifié. Matthieu a été tué par l'épée. Jacques, lui, il a été lapidé à mort. Matthias a été lapidé puis décapité. André a été crucifié, laissé, suspendu sur la croix pendant 3 jours. Pierre fut crucifié, mais Pierre, il a voulu lui à l'envers. Paul fut décapité, on le sait, par Néron à Rome. Jude a été crucifié. Barthélemy, lui, à coup de matraque. Thomas, on l'a oublié, il a été transpercé, lui, à mort. Simon le Zélote, il a été crucifié. Étienne, il a été lapidé à coups de cailloux à mort. Jean le Baptiste, sa tête, elle a reposé sur la table de nuit. Et toi, et chacun d'entre nous, de quoi adviendra-t-il? Je disais à ma femme, parce que ma mère est en fin de vie, et je vois sa souffrance, j'ai exprimé ça, je dis, moi je préférais mourir martyr que mourir comme ça, la vérité. Que le Seigneur vraiment ce matin nous éclaire. Nous ouvre les yeux. Vous avez vu, je suis quelqu'un qui aime rire. Je suis plein d'humour. Mais je suis en même temps très sérieux avec la parole. Très sérieux avec la parole. Tant que tu as cette liberté que Dieu te donne. Merci Seigneur pour la France et vive la France. La France, soit tu l'aimes, soit tu la kiffes. T'as pas. Mais en étant en France, Dieu me donne cette liberté. Frère. Ma sœur, le temps que Dieu te donne, mets-y toute ton énergie pour être en identification avec tes frères et sœurs qui souffrent à cause de sa parole.